Bonjour, c'est Greg, vous écoutez Isolation Thermique, un podcast de la coordination Action Autonome Noire, produit par Kizu Studio. Bienvenue à toutes et à tous. Ici l'ombre, les foncés parlent aux foncés. Chaque épisode d'Isolation Thermique choisit un concept important pour notre engagement et met en lumière d'où il vient, ce qu'il veut dire et à quoi il sert. Des mots-clés pour ouvrir des portes. Aujourd'hui, le terme est colorisme.
Qu'est-ce que le mot colorisme et d'où vient ce mot? On l'attribue à la militante et écrivaine Alice Walker, ouais, celle qui a écrit La couleur pourpre, et qui l'a notamment employé dans son livre À la recherche des jardins de nos mères, publié en 1983. Elle a alors défini le colorisme comme étant les préjudices ou les traitements de faveur auxquels sont exposées les personnes d'une même race, basées uniquement sur leur couleur de peau. En gros, pour faire simple, le colorisme c'est plus t'es clair, mieux c'est.
Si le racisme est la division et la hiérarchisation du genre humain en groupes distincts, caractérisés par leurs origines géographiques, leur culture et leur phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques physiques visibles, le colorisme est la continuation de cette logique dans l'ensemble de la société comme à l'intérieur même des groupes racisés. Il hiérarchise en mettant au sommet les personnes dont les caractéristiques physiques se rapprochent le plus de celles valorisées par le groupe dominant, ici, les blancs. Cela passe par les teintes de la peau, les plus claires étant considérées préférables aux plus foncées. Mais cela passe aussi par les traits du visage, le type de cheveux, etc. Lorsque le colorisme s'exprime au sein des communautés racisées, on peut se demander comment des personnes elles-mêmes sujettes à ce type de discrimination arbitraire en arrivent à la reproduire et à l'appliquer à leurs pairs. Il faut dire que ce système a une histoire et un héritage à la fois différent et inséparable de ceux du colonialisme et de l'expansion européenne. On trouve des versions du colorisme dans tous les groupes racisés. Les origines de cette forme de préjugé sont à chercher aux mêmes sources que le racisme. Déjà, au Moyen-Âge, les sociétés européennes assignent à la couleur noire des connotations négatives. Cependant, on fait encore à l'époque la différence entre la couleur noire abstraite et la couleur de peau. L'identification se fait progressivement, et notamment en lien avec les incursions et invasions européennes en Asie, en Afrique et aux Amériques à la fin du Moyen-Âge. La couleur de peau n'est plus simple preuve de différence, elle devient aussi preuve de supériorité. C'est de cette époque, et de l'Espagne en particulier, que vient l'idée de sang bleu, par exemple. Les veines, telles qu'elles apparaissent sous une peau très claire, donnent l'impression que le sang est bleu, un signe visuel censé distinguer les catholiques des musulmans, qu'on représente dès lors toujours comme plus foncés de peau, et qu'on érige en antithèse de l'idéal européen. Puisque l'autre, l'ennemi, est musulman et basané, l'européen se doit d'être blanc et chrétien.
C'est vrai que lorsque je jouais par exemple avec d'autres cousins à moi qui étaient chabins ou métis, parce que dans ma famille on est très mélangés, ben cette fameuse voisine, ah non les enfants, je vous ai apporté des petits goûters, nanana. Mais quand je jouais avec mes cousins qui avaient la peau noire, c'était David, viens prendre ton goûter et vous là, démerdez-vous avec vos parents.
On trouve ainsi un élément soi-disant empirique pour ancrer une idée irrationnelle. L'idée que les Européens eux-mêmes sont blancs mettra un certain temps à s'affirmer, et cette idée fera son chemin en partie grâce au maquillage et à la représentation, où l'on privilégie et exagère la blancheur de la peau pour en faire à la fois un critère de beauté et conforter l'idée qu'il s'agit d'une caractéristique naturelle. Avec le temps, on voit notamment les Européens justifier cette classification entre eux. Au XIXe siècle, on est ainsi convaincu qu'il existe des différences profondes entre latins, plus sombres de peau que les nordiques, et anglo-saxons, autant de catégories dépourvues de fondements scientifiques, mais qui participent à la fable active de la race. Dans cette hiérarchie, les blancs placeront les noirs en opposition polaire et tout en bas de l'échelle. Dans les colonies qui se développent aux Amériques et dans les comptoirs en Afrique, on voit grandir une population née principalement du viol de mères africaines et américaines par des Européens. Au fur et à mesure que les colonies deviennent des colonies de peuplement, ces populations deviennent quant à elles un problème pour l'ordre raciste. Que faire de ces personnes entre deux catégories, ni complètement européennes, ni complètement indigènes, ni blanches ni noires, jaunes, rouges ou quoi ? Les systèmes coloniaux ultra-hiérarchiques qui émergent inventent une taxonomie raciale basée sur de prétendus degrés de pureté et de mélange de sang. La loi décrit qui est libre ou esclavisé, cette taxonomie pseudo-scientifique nomme les mélanges. La proximité à la blanchité correspond dans certains cas et dans une certaine mesure à un bénéfice social, en cela que certains pères blancs d'enfants métis les libèrent, parfois les éduquent, créant une classe de gens libres de couleur dont le sort est nécessairement plus enviable que ceux de leurs frères et sœurs esclavisés. Pour ceux d'entre eux qu'on garde en esclavage, avoir une couleur de peau plus claire peut aider à obtenir des tâches plus valorisées et moins pénibles, notamment de domestiques. La brutalité des esclavagistes n'y est pas moindre, mais le statut qui y est lié est présenté tout du moins comme une amélioration. La proximité littérale à la blanchité est un symbole à part entière. Le système raciste présente ces faits de la vie coloniale comme des éléments naturels. On prétend que les populations opprimées par les blancs, qu'on torture, qu'on bat, qu'on affame, qu'on garde exprès dans l'ignorance, sont naturellement plus faibles, moins intelligentes, etc. Par le même retournement logique, on prétend que l'apport de blanchité par le sang rend les gens de couleur supérieurs aux prétendus purs noirs. Diviser pour mieux régner. Partout où il est imposé, dans les colonies américaines, africaines, océaniques et asiatiques, le système produit et encourage les différences liées à la couleur de peau, renforçant par là même l'idée que la couleur de peau est signifiante, un cercle vicieux qui se perpétue de lui-même parmi les groupes racisés. L'échelle qui va du noir au blanc, du sombre au clair, a été symboliquement attachée à une échelle abstraite du négatif au positif que l'on peut reproduire quasiment à l'infini dans toutes les catégories. Les rôles, qu'ils soient fictifs ou sociaux, dans un film ou dans une administration, se voient ainsi constamment influencés par la couleur de notre peau. La hiérarchie de couleurs n'est pas un fait naturel, mais étant imposée et confirmée comme fait social, son existence scientifique importe peu. Pour les esclavisés dans les sociétés esclavagistes, comprendre et éventuellement appliquer ce système au sein du groupe opprimé devenait partie de l'arsenal de survie, tant et si bien qu'on y vit les groupes racisés eux-mêmes appliqués dans les interactions au sein du groupe. Les abolitions de l'esclavage n'abolissent pas le racisme ou la suprématie blanche, bien au contraire. On voit par exemple se développer le phénomène du passing, comme on dit en anglais, ou le passage, pour ainsi dire, qu'on trouve aussi très tôt dans la littérature des Antilles. Quand des afro-descendants ont un phénotype suffisamment ambigu et la peau suffisamment claire pour que la majorité des gens autour d'eux les prennent pour des blancs. Il est impossible de savoir le nombre de populations représentées par ce phénomène. Toujours est-il qu'il gagne en notoriété, probablement disproportionnée, du fait de son attrait pour les écrivains et bientôt cinéastes, noirs ou blancs d'ailleurs. Le potentiel dramatique de ces vies à cheval sur la ligne de couleur semble irrésistible, mais ces histoires, même lorsqu'elles la critiquent, confirment pragmatiquement la réalité de cette hiérarchie. Le colorisme est une forme d'intégration du préjugé raciste par les racisés qui s'applique à eux-mêmes les critères arbitraires créés pour les opprimés. On en voit les résultats en permanence. Partout où est passé le colonialisme blanc, le phénotype, c'est-à-dire la couleur de la peau, mais également les traits du visage et la texture des cheveux, et rester ainsi un possible passeport vers un meilleur statut social par proximité. Quand le blanchiment ne se fait pas d'une génération à l'autre en mariant plus clair, il se fait littéralement. À partir de la fin du 19e siècle et jusqu'à maintenant, des produits cosmétiques de blanchiment de peau, souvent dangereux et non régulés, laissent miroiter la possibilité d'un changement quasi immédiat de statut social et d'attractivité. Ainsi, le colorisme se perpétue dans des choix qui peuvent apparaître individuels, anodins et inoffensifs, mais dont les effets sont brutaux et s'inscrivent littéralement dans notre chair. Le colorisme frappe les femmes noires de manière particulière. Imbu comme il est de notions de beauté, de désirabilité, matinée de sexisme et de misogynie, le colorisme appliqué aux femmes contribue à exacerber leur isolation et leur ostracisation à travers la société et au sein de nos communautés. Si on veut limiter l'importance et les effets du colorisme, déceler son influence sur nos préjugés, conscients ou pas, et nos imaginaires, notamment en matière de beauté, est indispensable. C'était Isolation Thermique. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes vos plateformes, nous suivre sur Instagram @isolationthermique. Pour soutenir Kizu Studio, rendez-vous sur kizustudio.org, sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouveau terme et un nouvel intervenant.